The e-book alternative. Donc, il s'agit de présenter un projet de partenariat autour de la production d'une plateforme pédagogique montée avec le CNAM. Et Monsieur Dupré également dira quelques mots d'une problématique qui devient de plus en plus importante, qui est celle de l'interopérabilité.
Ouais. Bonjour à tous. Ça y est, j'ai trouvé. Merci de m'accueillir pour cette conférence. Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui d'une expérimentation qu'on fait depuis un an à peu près avec le CNAM autour de la mise à disposition de contenus écrits en rapport avec les cours du CNAM auprès des étudiants, en essayant de bénéficier pleinement de ce qu'apporte le livre numérique en termes de distribution, mais aussi en termes d'expérience utilisateur sur les contenus numériques. Dans cette présentation, ce que je souhaitais faire, c'est une rapide présentation de la société TI, donc TEA, pour The E-book Alternative. Je pense que vous ne nous connaissez pas ou peu. Donc j'irai assez vite pour vous expliquer aussi quelle est la logique qui nous a amené à travailler avec les établissements d'enseignement supérieur autour de ces sujets-là. Ensuite, on verra en détail ce qui a été fait, ce qui est en cours actuellement avec le CNAM et également avec une autre école sur laquelle je ferai un petit zoom à la fin de la présentation. Et puis, si on a du temps, j'essaierai d'aller aussi sur effectivement ces sujets d'interopérabilité qui sont très importants pour TI et qui, à mon avis, sont un des leviers essentiels du développement du livre numérique. Donc une rapide présentation de la structure. Donc TI, quelle est notre activité? TI, c'est une start-up, on est basé à Lyon, c'est une société qui est un éditeur de logiciels. On développe une solution complète, à la fois logiciel, matériel et service, pour permettre aux professionnels, essentiellement de la chaîne du livre, d'accéder au marché du livre numérique et de prendre la place qui leur revient sur ce marché-là, puisque, je vais l'évoquer juste après, il y a une grande différence entre ce que représente la chaîne traditionnelle, on va dire, du livre en France sur le marché du livre papier et ce qu'elle représente sur le marché du livre numérique. Donc notre vocation, c'est d'amener une solution à ces professionnels pour leur permettre de vendre ou de distribuer, de mettre à disposition des livres numériques auprès des utilisateurs dans des conditions d'ergonomie, de profondeur de catalogue et d'offres en général qui ne soient pas moins disantes par rapport aux solutions dominantes de ce marché. L'organisation a été créée en 2011 sous l'impulsion de plusieurs industriels, dont la librairie De Citre, donc qui est basée à Lyon. C'est pour ça qu'on est à Lyon. Le groupe De Citre est encore majoritaire dans le capital de l'entreprise, mais deux autres industriels très présents sur le marché du livre et dans deux univers très différents sont également au capital de la structure, puisqu'il y a le groupe Cultura, que vous connaissez sans doute, qui est également au capital, et le groupe Système U, qui est un acteur de la grande distribution, mais très présent sur le marché du livre. Et donc au conseil d'administration de l'entreprise se trouvent des professionnels de la distribution de livres qui ont souhaité mettre en commun des moyens, mettre en commun des compétences pour créer un champion français de ce domaine de la distribution de livres numériques en l'incarnation de cette société TI. Donc la structure aujourd'hui est composée de 18 salariés, elle est basée à Lyon, sont essentiellement des ingénieurs informaticiens, même l'équipe de direction a plutôt un profil technique. Et on a véritablement été construit autour des problématiques d'ouverture de ce marché du livre numérique. Alors ouverture à double titre, ouverture pour le consommateur et ouverture pour les professionnels. Hein. En deux mots, la genèse de TI, c'est le fait que nos investisseurs ont souhaité vendre du livre numérique dans leur librairie, et lorsqu'ils sont tournés vers les solutions qui existaient sur le marché, ils sont aperçus qu'ils avaient le choix entre des solutions purement, je dirais, fermé, propriétaire, proposé, d'ailleurs pas par tous les acteurs au niveau de la distribution, puisque seul Kobo avait une offre avec la FNAC dans la distribution, mais pour autant une offre fermée, avec son propre format de fichier, ce qui posait des problèmes évidemment de maîtrise des consommateurs pour les libraires. Ou alors des solutions qui étaient dites ouvertes, mais avec une ergonomie, une puissance, je dirais, technique inférieure, nettement inférieure à ce que pouvaient proposer des solutions comme Amazon, Apple et Kobo, qui sont vraiment les trois solutions qui dominaient le marché. Et donc il y a eu cette idée de mettre les moyens sur une structure, une start-up, donc réunir des compétences pour développer un nouvel environnement qui s'appuierait sur un système ouvert pour permettre d'abord à ces professionnels de vendre des livres numériques sans avoir la contrainte des investissements technologiques et de la maîtrise de la technologie. Et puis le deuxième axe de l'ouverture, c'était vis-à-vis du consommateur, puisque les systèmes d'Amazon, d'Apple ou tous les systèmes dits propriétaires ont la particularité d'enfermer le lecteur dans cet écosystème, c'est-à-dire que le livre acheté dans le système se lit très bien dans le système, mais la plupart du temps, il est très difficile de l'exporter dans un autre système. Et donc, il y avait quelque chose de totalement opposé à ce qu'on connaît dans le livre papier. Hein. Dans le livre papier, vous achetez un livre dans n'importe quelle librairie, vous avez le droit de le lire dans votre canapé, si vous voulez changer votre canapé, vous ne rendez pas votre livre. Dans le livre numérique, vous achetez un livre dans une librairie, par exemple Amazon, vous lisez dans un environnement, ce n'est pas un canapé, c'est une application, mais cette application, elle s'appelle Kindle, et si vous voulez sortir de l'application Kindle parce que vous voulez dans une autre, et ben vous rendez votre livre parce que le livre il appartient à l'environnement Kindle. C'est vrai aussi pour tous les systèmes propriétaires. Donc ça c'était un axe très fort pour nous. Je fais cette introduction sur ce point-là parce que c'est essentiel dans la démarche que l'on a dans notre technologie et qu'on a sur les notions d'interopérabilité et d'ouverture. Alors deux mots également par rapport au marché pour expliquer vraiment cette vision et puis on va arriver dans le cœur du sujet. Quand on regarde le marché du livre aujourd'hui numérique en France, il est extrêmement petit. C'est à peu près les meilleures études donnent 3% du marché du livre total. Donc c'est un marché qui représente un peu moins de 80 millions d'euros. C'est vraiment très petit. Et quand on zoome sur les parts de marché des différents acteurs, on s'aperçoit que grosso modo 80% de ce marché est monopolisé par des solutions propriétaires, donc des solutions qui enferment le lecteur dans un système, et non ouverte aux distributeurs, donc des solutions qui ne permettent pas à un libraire ou à n'importe quel distributeur de livres de faire son activité. Et quand on regarde les autres acteurs, TI y compris, on a des parts de marché quasi insignifiantes. Si vous regardez le cas de TI, on représente 3% de parts de marché à peu près sur ce marché-là, donc c'est évidemment très faible. Et pour autant, on a 25 clients aujourd'hui, des enseignes comme évidemment nos actionnaires, donc Système U, De Citre, Cultura, mais également Le Furet du Nord, également Chapitre, le groupe France Loisirs, des acteurs comme Cdiscount, des acteurs comme les librairies Bayard avec le site La Croix par exemple, qui est un site qui fait beaucoup de trafic, et encore d'autres acteurs, Auchan, etc., etc. Donc on s'aperçoit que tous ces acteurs réunis pèsent une part de marché insignifiante dans le livre numérique, alors que les acteurs hégémoniques, on va dire, nord-américains qui sont dans des systèmes propriétaires, eux ont pris toute leur part sur ce marché-là. Évidemment, dans le livre papier, ce n'est pas du tout la même chose. On remarque notamment que dans le marché du livre, il y a encore une grande part des achats qui se font dans les réseaux traditionnels. C'est-à-dire que, bien qu'on parle beaucoup d'Amazon, et Amazon évidemment domine le marché de la vente en ligne, ce marché de la vente en ligne pèse moins de 20% en réalité du marché du livre, des ventes de livres, et il y a encore pratiquement 42% des ventes qui passent par les réseaux traditionnels. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'on a un marché du livre numérique qui est complètement, je dirais, déséquilibré vers les systèmes propriétaires et ces systèmes de technologie, en fait. Et on a un monde du marché du livre papier qui se maintient assez bien dans les réseaux traditionnels, c'est-à-dire que les Français aiment acheter encore des livres dans les réseaux traditionnels, y compris la grande distribution, la librairie et les lecteurs classiques. Donc ça veut dire que les lecteurs de livres, et donc potentiellement des lecteurs de livres numériques, sont principalement dans les réseaux traditionnels. Et pour autant, quand on regarde si les Français lisent des livres numériques, on s'aperçoit qu'il y en a 80% qui savent ce qu'est un livre numérique, mais ils sont 75% à n'avoir jamais lu de livre numérique. C'est-à-dire qu'on est dans un paradoxe où les lecteurs achètent encore pas mal de livres en France, principalement dans des réseaux classiques. Ils ont pour la plupart entendu parler de livres numériques, mais en réalité, les seuls qui lisent vraiment des livres numériques sont ce qu'on appelle les early adopters, ceux qui ont été séduits par les offres propriétaires, qui sont des gens à qui aujourd'hui parlent des solutions comme Amazon ou Apple, donc soit des gens qui ont acheté un iPad, soit des gens qui ont l'habitude d'acheter online, et qui évidemment sont très proches d'Amazon pour l'ensemble de leurs achats. Alors pour nous, on y voit là une opportunité et qui va nous ramener au sujet de l'importance de développer le livre numérique dans des systèmes interopérables. L'opportunité, c'est que effectivement le marché est petit, donc on pourrait dire ce marché il est petit, donc c'est un marché qui ne se développe pas. Mais en réalité, il est petit, mais il est particulièrement petit au niveau des réseaux traditionnels, alors que paradoxalement, ces réseaux traditionnels, tous les jours, reçoivent des lecteurs. Donc tous les jours, ont potentiellement des gens pour qui la lecture numérique serait un plus et à qui on n'apporte pas de solution véritablement satisfaisante. puisque pour nous, ce qui est très important à prendre en considération, comme toujours dans l'univers des technologies, c'est l'expérience de l'utilisateur. C'est-à-dire, si vous prenez un utilisateur, que vous lui mettez dans les mains un livre numérique et que l'expérience qu'il a est mauvaise, il va vous dire que le livre numérique ne l'intéresse pas. Si vous lui mettez, par exemple, un Kindle dans les mains qui offre plutôt une expérience sans couture et parfaitement séduisante, il va vous dire c'est super, il y a plein d'avantages, je peux gérer la taille de mes caractères, je peux l'emporter en vacances pour la mobilité, je peux acheter, même si c'est le dimanche et que je suis sur le bord de la mer et je suis pas à proximité d'une librairie, etc. etc. Donc l'expérience utilisateur est au centre. Et donc nous, notre pari, c'est que si on amène une solution avec une expérience utilisateur aussi bonne à minima que les environnements qui dominent dans les réseaux traditionnels, alors les lecteurs de livres papier aujourd'hui seront confrontés à une offre de livres numériques de qualité, et on peut parier que le marché du livre numérique va se développer, non pas en remplacement du livre papier, parce que toutes les études nous montrent que les gens qui lisent en numérique lisent plus en général et aussi en papier. Le nombre d'achats moyens de livres papier d'un lecteur numérique, c'est une vingtaine d'ouvrages par an. Donc les gens qui lisent du livre numérique lisent aussi du papier. Il n'y a pas de retournement du marché de l'un au profit de l'autre. Voilà, donc nous, la solution qu'on apporte, elle est, vous l'avez compris, en dessous de la chaîne éditeur, c'est-à-dire que l'éditeur, évidemment, fait tout le travail de construction des livres dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et nous, on intervient après, c'est-à-dire on intervient à partir de ce qu'on appelle l'entrepôt numérique. Les éditeurs, chaque jour, déposent leurs fichiers chez nous, et à partir de là, nous nous occupons de toute la chaîne technique pour amener le fichier jusqu'à un lecteur et lui permettre de lire dans des bonnes conditions. Et le prérequis pour nous, qui est finalement dans notre ADN, c'est que tout ça ne se fasse pas dans un environnement propriétaire, puisque nos clients sont différentes enseignes, différents professionnels, et donc il ne s'agit pas évidemment d'enfermer le consommateur dans un univers qui serait l'univers de Tea, par exemple, ce qui bloquerait à la fois le consommateur et à la fois nos clients. Et Tea ne fait pas de vente de livres numériques directs, on a vraiment une activité 100% tournée vers les professionnels. Voilà. Bon, quelques chiffres clés, la société fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a démarré notre activité en 2012 pour ce qui est de la partie commerciale, fin 2011 pour la création. On a à peu près 400 000 fichiers au catalogue, donc ce sont tous les titres disponibles aujourd'hui en livre numérique. Il y a 900 points de vente sur le territoire français qui vendent des liseuses numériques avec la marque Tea. Ces liseuses représentent un parc d'à peu près 50 000 unités en France. L'ensemble des utilisateurs qui ont déjà fait au moins un achat sur la plateforme Tea sont à peu près 250 000 à l'heure où je vous parle. Et on a une plateforme qui a dépassé le 1,5 million de téléchargements de fichiers. Voilà, donc on en vient, ça c'était vraiment pour vous expliquer le cheminement qui nous a amené à nous intéresser au monde de l'enseignement supérieur. On est dans cette idée de démocratiser le livre numérique, et donc chaque endroit où des lecteurs numériques potentiels sont présents, ça nous intéresse de trouver des partenaires avec qui on va pouvoir amener cette solution auprès du lecteur afin de lui faire découvrir la lecture numérique et surtout de lui faire découvrir les bénéfices de cette lecture numérique. Donc vraiment en ciblant sur l'expérience de lecture elle-même. Donc le point de départ en fait de ce projet, c'est que on parle beaucoup dans le monde de l'enseignement et à peu près tous les établissements qu'on rencontre nous disent ça. On parle beaucoup de numérique évidemment, mais aussi de numérique dans l'enseignement. Et on raisonne souvent par numérique, on raisonne e-learning, on raisonne MOOC. Le CNAM, c'est l'un des principaux éditeurs de MOOC en France. Et on pense évidemment dans ces cas-là dématérialisation, mais je dirais aussi interactivité. Pour autant, ce qu'on constate, c'est que même quand vous avez le maximum de e-learning dans un enseignement, vous avez systématiquement un passage par l'écrit, un passage par le support écrit. C'est-à-dire que l'écrit reste prépondérant, dominant, dans ces univers, même si ces univers se sont transformés vers de l'interactivité, vers des jeux en ligne, vers tout un tas d'éléments de multimédia. Pour autant, ce qu'il reste à la fin de l'enseignement, c'est un écrit, et ce qui vient nourrir l'étudiant avant, pendant et après le cours, ça reste un écrit. Donc ça, c'est le point de départ, c'est que l'écrit est quand même toujours au cœur des enseignements, et il restera sans doute encore longtemps. Que l'on parle des exercices, que l'on parle des supports de cours ou d'autres supports. Et finalement, notre vision, lorsqu'on a échangé avec des établissements d'enseignement supérieur, c'est que les établissements sont finalement ce qu'on pourrait appeler des auto-éditeurs, c'est-à-dire qu'ils ont chaque professeur produit énormément de contenu écrit. Parfois, c'est formalisé d'ailleurs par des livres, puisqu'après, ils sont édités. Mais même un professeur qui n'est pas allé jusqu'à éditer un livre est un producteur de contenu écrit important, à forte valeur ajoutée pour l'étudiant au moment où il va le recevoir. Et donc, finalement, la logique qu'ont les éditeurs de produire des contenus et de faire ensuite appel à des plateformes qui vont optimiser la distribution et l'expérience de lecture, pourrait tout à fait être la même dans le monde de l'enseignement supérieur, en partant du principe que le livre, qui a un format, même s'il évolue avec le numérique, qui a un format quand même relativement normé dans le monde de la librairie ou de la littérature, là peut avoir un format très divers. Ça peut être un exercice, ça peut être quelques pages, ça peut être un document avec de l'interactivité. Et le lecteur est un étudiant qui va trouver pertinent les contenus qu'il va recevoir de l'établissement au moment où il va les lire ou au moment où il va les consommer. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'ensemble du savoir-faire de TI dans, encore une fois, le bas de la chaîne, dans la distribution et dans la lecture, pour le mettre à profit dans les environnements d'enseignement supérieur. Donc ce qu'on appelle, nous, une verticalisation en fait, de notre plateforme vers un endroit où l'éditeur est particulier, c'est un établissement, et où le lecteur est particulier, c'est un étudiant qui suit un cursus auprès de cet établissement. L'idée derrière ça, c'est de dire que, évidemment, on ne touche pas le programme de numérisation de l'enseignement lui-même, c'est-à-dire les programmes e-learning, les MOOC ou même les cours en présentiel continuent de se faire, mais on va s'intéresser véritablement aux supports écrits. Donc on va regarder ces supports écrits qui aujourd'hui sont remis souvent sous la forme d'un PDF, parfois simplement téléchargeable sur un intranet, parfois envoyé par mail, parfois d'ailleurs sous forme de support. J'étais il y a 3 semaines sur une formation en formation moi-même à Londres, sur un séminaire extrêmement interactif avec énormément d'interactivité, de multimédia. On recevait des SMS toutes les 3 minutes pour nous dire de retourner en cours ou de faire tel exercice. C'était parfaitement interactif, parfaitement numérisé. Il n'empêche que au départ du cours et à la fin, j'avais un pavé comme ça de papier qui reprenait l'ensemble des cours, l'ensemble des exercices, et c'est effectivement ça qu'il me reste à la fin de cette formation. Donc l'idée, c'est de s'intéresser à ces contenus écrits et de voir dans quelle mesure on va pouvoir les distribuer. Donc l'idée, c'est que l'établissement d'enseignement peut, comme le font les éditeurs, déposer des fichiers dans notre entrepôt. Et ensuite, la moulinette de l'entrepôt va se charger effectivement de normer ce fichier, d'y adjoindre ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire à minima le nom du document, son auteur, mais éventuellement des informations supplémentaires qui vont être utiles soit à l'étudiant avant de consulter le livre, soit à l'établissement pour avoir des éléments statistiques aussi sur ces livres. Et puis, on va s'occuper ensuite de la diffusion du livre. Alors là, effectivement, il n'y a pas, en tout cas dans le cas du CNAM, sur cette partie-là, il n'y a pas d'acte de vente du fichier lui-même, mais l'utilisateur va accéder à des contenus gratuits par rapport à son profil pour lui permettre ensuite de les lire. Et ce qui est très important, c'est qu'on ne va pas se contenter de lui donner le fichier. Là, on ne parle pas de dire « je mets un PDF sur un site internet, téléchargez-le et débrouillez-vous avec ». Parce que si on fait ça, on rentre dans le problème que j'évoquais en introduction, que l'expérience numérique se limite à avoir le fichier sur son ordinateur. C'est moins lourd, ça permet d'être archivé, mais on ne bénéficie absolument pas de toute la puissance qu'offre la lecture numérique en termes d'expérience. Donc on va s'intéresser aussi évidemment à l'expérience de lecture en mettant dans les mains de l'utilisateur un environnement de lecture capable de lire les fichiers qui ont été envoyés par l'établissement, interopérable dans sa logique et sa technologie et apportant tous les bénéfices de la lecture numérique, parmi lesquels la gestion des caractères pour adapter le texte à sa vue. Quelqu'un qui a des problèmes de vue va pouvoir adapter le texte à sa vue. Évidemment la prise de notes, le partage de notes et tout un tas de fonctionnalités qui existent dans le livre numérique, évidemment. Et ce qui est intéressant aussi pour l'établissement, c'est qu'on peut, grâce à ce système de maîtrise de l'environnement de lecture, remonter aussi des informations pour l'établissement pour vérifier que dans le cadre de son travail e-learning, la partie qui concerne l'écrit est bien réalisée par l'étudiant. On va pouvoir vérifier que l'étudiant a bien lu le livre, c'est la moindre des choses, mais aussi vérifier qu'il a peut-être activé dans le livre, si le livre est interactif, le module vidéo à un moment donné, et bien aller jusqu'au bout, le temps, éventuellement le temps qu'il a mis pour lire ce livre, c'est-à-dire si l'étudiant l'a survolé en 15 minutes, alors qu'il faut normalement y passer une heure ou une heure et demie, c'est un indicateur. Donc on travaille aussi sur ces sujets-là. Finalement, c'est vraiment faire bénéficier des forces de la lecture numérique à l'établissement avec cette notion alors, qui est celle de classeur numérique, ce que je vous disais, c'est-à-dire essayer de retrouver la même expérience que dans le papier, c'est-à-dire un support qui va permettre à l'étudiant de retrouver l'ensemble de ses contenus en fonction de son cursus, va lui permettre de les classer, de les archiver, de les annoter, hein, exactement comme on prend des notes sur ce fameux classeur papier, et de les garder dans le temps. C'est-à-dire que c'est ce qui va lui rester à la fin de son cursus, c'est le document de référence auquel il va pouvoir se rattacher. Hein, si je regarde mon cas personnel, moi, je suis passé par deux institutions lyonnaises qui sont l'INSA et l'École de Management de Lyon. Dans les deux cas, j'ai un certain nombre de cours que je veux garder, ils sont en papier, ils sont en train de prendre la poussière quelque part chez moi, je sais plus exactement où d'ailleurs. Là, il y a exactement l'idée de dire j'ai archivé mes contenus, mes notes prises à l'époque et dans un environnement de lecture qui m'apporte plus que simplement un PDF quelque part sur mon ordinateur. Donc cette approche est aussi d'accompagner l'étudiant avant le cursus, pendant le cursus et après le cursus. Concernant le CNAM précisément, je vais vous faire un retour sur ce qu'on a fait, ce qu'on fait actuellement encore avec eux. Donc l'existant au départ du projet du CNAM, le CNAM a un environnement numérique assez puissant d'ailleurs en place, dans lequel il y a différents modules, différents environnements. Et au centre, il y a une plateforme, ce qu'on appelle de Learning Management System, LMS, qui est basée sur Moodle, que vous devez connaître, qui est vraiment la référence pour l'ensemble des étudiants pour trouver tout un tas de ressources par rapport à leur enseignement. Donc lorsqu'on s'inscrit au CNAM, on reçoit un identifiant d'accès à ce qu'on peut appeler un intranet, dans lequel on va retrouver l'ensemble des ressources, et y compris les contenus écrits, c'est-à-dire qu'on a là son programme de formation, éventuellement un plan d'accès s'il y a une salle dans laquelle on doit se rendre, et des supports qui sont souvent en PDF, parfois en EPUB, qui vont pouvoir être téléchargés. Donc l'utilisateur peut se connecter, à fonction de son profil, il accède à un certain nombre de ressources et il peut évidemment télécharger les contenus écrits à partir de cette plateforme, les avoir sur son ordinateur. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun outil d'accompagnement et d'usage, sur l'usage du fichier lui-même. C'est-à-dire qu'ensuite, l'utilisateur, il doit avoir son fichier téléchargé et ensuite, il est abandonné à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il a un document et la plupart du temps, ce document va être imprimé et on va repasser par une expérience papier. Ce qu'on veut précisément éviter quand on passe du temps et de l'argent sur un projet numérique. Les objectifs du CNAM sur ce projet, c'était d'apporter une solution universelle pour la distribution et la lecture des contenus écrits liés au cours, avec l'idée de valoriser le cours et l'établissement vis-à-vis des étudiants. Donc le CNAM a aussi cette problématique d'attirer des étudiants. Donc il y avait cette volonté aussi d'expliquer aux étudiants qu'ils allaient avoir une expérience véritablement complète autour du numérique. Il y avait la notion de simplification de l'accès au contenu écrit, au support, puisque si l'étudiant n'est pas connecté avec son ordinateur et n'a pas téléchargé le fichier, il est sur son smartphone, sur sa tablette. Si vous avez un étudiant, par exemple, qui commence un cursus en septembre, il est probable que pendant l'été, il y a un minimum de choses à faire pour préparer ce cursus qui démarre. Et en même temps, l'été, il est peu probable qu'il soit derrière son ordinateur chez lui ou dans une bibliothèque. Il est plus probable qu'il soit sur la plage ou en vacances. Et donc, le fait de pouvoir accéder à ses contenus depuis une tablette était, par exemple, un point important. D'autre part, donc accompagner, c'est un peu le corollaire, les étudiants dans la préparation, le suivi et l'archivage de ces cours. Favoriser le travail des étudiants sur les cours par la prise de notes et le partage de notes. Donc l'idée, c'était de dire aussi que l'étudiant puisse avoir en numérique la possibilité d'annoter, c'est-à-dire surligner, éventuellement isoler un passage, le commenter et le transmettre, à minima par mail, soit vers le professeur, soit vers d'autres étudiants. Et puis rendre accessible globalement aussi les contenus écrits à tous les utilisateurs. Vous savez qu'une des forces du livre numérique, et là je parle de l'expérience de lecture, c'est l'accessibilité au contenu. C'est-à-dire que vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, la possibilité de grossir les caractères de manière à rendre plus lisible un texte pour quelqu'un qui a des problèmes de vue, mais vous avez aussi pardon, de la lecture automatique du texte, de la synthèse vocale, voilà, cherchez le terme, de synthèse vocale qui permet d'aider aussi à la lecture, à la compréhension. Vous avez des polices pour les dyslexiques qui ont été développées, qui permettent de rendre plus accessible le fichier. Donc il y avait aussi tout ce pôle d'accessibilité qui était très important pour eux. Et le prérequis, c'était de ne pas changer l'existant. Évidemment, la solution qu'on a mise en œuvre n'est pas une solution qui vient balayer tout ce qui a été fait. Ce n'est pas une solution qui permet au CNAM aujourd'hui de gérer ses MOOC. Ce n'est pas une solution qui permet au CNAM de gérer véritablement sa stratégie e-learning, puisqu'on ne rentre pas dans la stratégie e-learning. Mais c'est bien une solution qui vient s'intégrer totalement dans cet écosystème de manière à gérer, à prendre en considération les contenus écrits. Donc factuellement, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a permis au CNAM de travailler sur les deux côtés de la chaîne. Finalement, le CNAM est pour nous à la fois, dans le jargon de TI, à la fois un éditeur, en ce sens où il vient déposer des contenus exclusifs qui lui appartiennent, et un libraire, en ce sens où il donne accès à des lecteurs qui sont ses étudiants, à ses contenus. Et donc la démarche qui a été choisie, c'est que le CNAM... Eh bien, dépose ces fichiers dans l'entrepôt TI en suivant la norme Onyx qu'on a chez TI pour l'ensemble des éditeurs. Donc ils ont un Onyx simplifié qui leur permet de déposer ou de modifier les ouvrages en temps réel. Et puis chez TI, on a géré la complexité qu'il y avait derrière ça, c'est-à-dire qu'on va ce fichier source le protéger. Donc j'en parlerai juste après, on a des modules de protection évidemment pour les droits d'auteur de ces fichiers, mais avec ce souci d'interopérabilité et de simplification pardon, de l'ergonomie. Donc j'en dirai deux mots tout à l'heure. On va gérer aussi une interface d'authentification unique, c'est-à-dire que l'utilisateur va accéder à ces fichiers avec le même identifiant que sur son intranet Moodle. Et puis, on va gérer aussi, via le LMS, des profils qui sont déjà renseignés sur le LMS. C'est-à-dire que lorsqu'un enseignant dépose un fichier sur le LMS aujourd'hui, il explique que c'est pour tel cours, pour telle année de tel cours, par exemple, tel module. Et automatiquement, les étudiants qui sont inscrits à ce module sont reconnus dans ce profil-là. Eh bien, évidemment, il n'y a pas besoin de recréer ces modules au niveau de la plateforme TI. Les deux plateformes communiquent de manière à ce qu'on ait une réplication parfaite d'une part des utilisateurs et d'autre part de leur droit d'accès au contenu. Et puis ensuite, l'étudiant, eh bien, lui, on va mettre à sa disposition une application gratuite qui peut télécharger sur Android ou sur environnement Apple, donc tablette, smartphone. Cette application, lorsqu'il la démarre, il y a déjà des contenus, je dirais, entre guillemets, gratuits, qui sont des contenus souvent d'informations sur le cursus du CNAM et qui permettent d'avoir des informations pratiques. Et puis, on va lui proposer de s'authentifier avec l'identifiant qui lui a été remis par le CNAM. Donc, il va rentrer le même identifiant. Et à partir de là, il va avoir exactement comme vous le feriez dans les environnements pour la littérature, hein. Il va avoir une reconnaissance de son profil, de ses, je mets des guillemets, achats. Donc ces achats, en fait, ce sont les livres auxquels il a droit par rapport à son profil. Et il va y avoir une possibilité de synchronisation de l'ensemble de ses contenus pour qu'il les retrouve dans son application. Et ensuite, cette application va lui apporter tous les avantages de la lecture numérique. C'est-à-dire qu'il va pouvoir gérer, d'une part, classer ses livres et effectivement faire des étagères, faire une bibliothèque, je dirais, personnalisée. Ensuite, il va pouvoir, bien sûr, lire ses livres en choisissant la taille de ses caractères, en choisissant de les annoter éventuellement. Il va pouvoir partager ses notes directement